est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Si j'avais quelqu'un à vanter ici, eh bien ce serait peut-être D'Annunzio. Il y avait en lui deux personnages. D'une part, l'homme en représentation, et de l'autre, l'homme de l'intimité, qui décidait qu'avec certains, son histrionnat ne prenait pas, s'en démettait et devenait simple et charmant.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On n'avait jamais vu, depuis que la construction de l'Union européenne est en mouvement, un affrontement verbal aussi violent entre l'Italie et la France. Les deux leaders coalisés du gouvernement italien, Matteo Salvini de la Ligue et Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles, rivalisent d'hostilité envers notre président de la République. Et le premier d'entre eux est allé ces derniers jours jusqu'à encourager nos gilets jaunes à culbuter Emmanuel Macron. Cette attitude sans précédent est généralement interprétée comme l'effet d'une surenchère nationaliste portée par des préoccupations de politique intérieure, par le souci de capitaliser sur une pulsion nationaliste qui, comme il advient toujours, s'enracine dans des sentiments anciens auxquels il conviendrait de redonner vie. Dans ce climat, j'ai souhaité éclairer ce matin la figure d'un personnage majeur qui, autour de la Grande Guerre, a incarné avec un éclat sans pareil ce patriotisme porté jusqu'à la caricature, jusqu'à l'exaspération. Cet écrivain, par son œuvre littéraire qui a connu en son temps un rayonnement universel, mais tout autant par son action politique, à la fois concrète et symbolique, cet écrivain a marqué en profondeur les sensibilités de l'autre côté des Alpes, tout en frappant d'étonnement l'Europe tout entière. Cet écrivain, c'est Gabriele D'Annunzio. Mon invité, Maurizio Serra, qui est diplomate, qui fut encore récemment à Paris ambassadeur de l'Italie auprès de l'UNESCO, a acquis d'autre part les lettres de noblesse d'un historien et biographe reconnu. Son livre récent, intitulé « D'Annunzio le Magnifique », restitue à merveille un itinéraire hors de pair. Certes, on lit moins D'Annunzio que naguère, mais nous allons démontrer, je pense, que son histoire flamboyante peut résonner jusqu'aujourd'hui. Car elle charrie des aspirations, des passions que le temps écoulé depuis sa mort, survenue en 1938 au cœur du fascisme mussolinien, n'a pas éteinte.
Je le vis pour la première fois sur le seuil de l'hôtel au moment où je sortais du train, et je dois dire que son aspect m'a d'abord décontenancé. Je connaissais certaines de ses photographies, et sur ses photographies, de même que sur ses bustes, il était beau, car la forme de sa tête, le volume de son front était superbe, son nez était beau, la forme du visage était belle, un peu allongée par une barbe taillée à la manière des Valois. Mais la couleur de sa peau était malheureusement désavantageuse et faisait que cet homme dont les traits étaient superbes était un homme qui n'était point beau. L'œil non plus n'avait pas une belle couleur et pourtant il avait une belle forme. À la vérité, il était fait pour faire un buste antique. Il était petit, les hanches rondes comme des hanches de femme, des mains superbes qui portaient à l'annulaire un anneau dans lequel étaient enchâssées deux émeraudes. Sa parole était une parole extraordinairement frappante par l'accentuation italienne des consonnes, celle que je réclame toujours à mes élèves et qu'il avait spontanément, et une éloquence naturelle saisissante. Il était d'un abord extrêmement aimable et gracieux, et nous avons eu le bonheur de passer là avec lui 3 jours complets qui ont été merveilleux, charmés par non seulement sa connaissance du théâtre, sa connaissance de la poésie, son amour de la musique, étant donné que Romain Rolland nous accompagnait et que le soir, nous entendions ce merveilleux écrivain qui était aussi un merveilleux pianiste, je parle de Romain Rolland, nous jouer par cœur des partitions de Wagner.
Mauricio Serra, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Je vous ai proposé un texte de souvenir de Madame Simone, une personnalité intéressante. Elle a vécu jusqu'à 108 ans, donc elle a eu le temps de raconter. Elle était d'autre part une comédienne notoire avant 14. Elle a été célèbre aussi pour ses amours brèves mais intenses avec Alain Fournier avant que celui-ci fût tué à la guerre de 14. Et elle a connu, comme nous venons de le voir, Gabriele D'Annunzio. Vous le retrouvez là, votre personnage?
Oui, c'est un témoignage exact qui se recoupe avec celui d'autres témoins. Elle est très généreuse sur un point, sa dentition ravagée depuis l'enfance, qui en faisait parfois, vu de trop près, un interlocuteur difficile, mais à côté de cela, rehaussée par un sens du verbe qui était, je crois, assez prodigieux.
Pourtant, beaucoup de femmes, nous dit-on, l'ont approchée de près.
Écoutez, ce sont les mystères de la nature humaine.
Nous les laisserons donc ouverts pour commencer cette émission, qui assurément n'épuisera pas le sujet. Mais il y a beaucoup à dire, alors je voudrais qu'en commençant, pour que nous comprenions ce que ce personnage a pu avoir de séduisant, vous nous le fassiez ressurgir dès sa jeunesse. Il était cinglé, il était narcissique, il était généreux, il était excentrique. Il était à la fois dilettante et vaillant. Certains ont dit graphomane et érotomane, n'en jetez plus.
Oui, alors il y a ce qu'il appelle dès le début sa multanimité, enfin je l'ai traduit comme ça, disons une dualité ou une complexité de plusieurs natures qui se retrouvent et se chevauchent. Je crois que l'essentiel était une débordante vitalité. Une vitalité humaine, une vitalité littéraire, une vitalité dans l'action. Mais il est important de considérer que s'il y a des étapes successives dans sa vie, comme dans celle de n'importe qui, ces éléments, pour lui, sont toujours unis dès le début. Il se veut donc non pas poète au début et homme d'action plus tard, mais poète de l'action du début à la fin.
C'est pour ça qu'il nous intéresse au premier chef, quand on resitue cette personnalité dans notre conjoncture, de même que récemment, nous étions penchés sur l'histoire de Saint-Jean-Perse, qui lui aussi a été un grand poète et un homme d'action. Mais restons sur notre D'Annunzio, sur votre D'Annunzio, Mauricio Serra. D'où vient-il? Quelle est son histoire? Il faut toujours aller chercher les origines.
Oui, des origines familiales et régionales qui rejoignent un peu la mouvance, disons, de la fin du siècle, c'est-à-dire le passage de la bourgeoisie, de la bonne bourgeoisie de province à la capitale, aux capitales, parce qu'il faut y ajouter Paris qui joue très vite un rôle majeur dans sa vie, et donc le besoin d'éblouir et de s'imposer sur la scène internationale. Itinéraire assez classique si l'on veut, mais qui en même temps se double en lui d'une férocité de goût pour la vie qui est, me semble, à caractère essénique et qui autorise, je crois, la comparaison que je fais à plusieurs reprises avec l'homme animal, le centaure. Et parmi tous les artistes du XXe siècle, ne se sont jamais rencontrés, sauf peut-être une fois dans un salon à Paris avant la guerre, avec Picasso.
Dès ses études, dès ses années de collège, D'Annunzio paraît rare.
Alors, il y a un peu l'invention du personnage qui se fait, et donc, grâce à des amis qui ont bien complaisamment voulu témoigner, il y a ce côté, donc, napoléonien qui doit s'imposer dès son adolescence. Il en a beaucoup rajouté, mais il est certain que cet appétit à la fois physique et intellectuel est assez éblouissant.
Son père est de la bourgeoisie traditionnelle, il vient des Abruzzes.
Alors, il vient des Abruzzes qui sont une région à ce moment-là à la fois assez reculée et plus ouverte par l'Adriatique vers les grands mouvements internationaux. D'ailleurs, pour anticiper sur notre débat, D'Annunzio dira plus tard qu'un bateau de la flotte de la marchande de sa famille avait été coulé par les Autrichiens dans les eaux de l'Adriatique.
Très jeune, il va s'installer à Rome comme un chroniqueur mondain, un journaliste, un poète, un dandy. Et les premiers traits de sa personnalité se fixent.
Oui, alors, Dandy, oui. Décadent, non. Je pense qu'il utilise le dandysme comme une arme de sa panoplie, comme le sport équestre notamment, il est assez bon cavalier, pour entrer dans une société qui l'intéresse. Mais cet intérêt est toujours l'intérêt qu'il aura toute sa vie pour les matériaux qui peuvent lui servir en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Il y a très curieusement chez ce personnage un côté qui m'a frappé, que je ne connaissais pas si bien avant de l'avoir vraiment affronté, et qui est un réalisme de toutes les circonstances et de toutes les situations, sauf peut-être en politique.
Alors nous parlons évidemment beaucoup de politique. Il commence à Rome et assez vite, il va être conduit à se rendre à Paris, enfin assez vite, au bout d'une décennie, ce qui nous installe au cœur de la problématique particulière de cette conversation. Ces années romaines sont importantes à la fin du 19e siècle.
Ces années romaines sont importantes, mais en même temps, le premier ouvrage, le premier roman, après une série de recueils poétiques qui lui permet de s'imposer et auquel lui-même trouvera le beau titre français de L'Enfant de Volupté.
En italien, le titre est différent.
En italien, le titre est intraduisible, il piacere.
Le plaisir.
On peut le traduire par le plaisir, mais ça...
Ça existe en français.
C'est un peu plus... Oui, je l'imagine. Mais c'est peut-être un peu plus léger que l'original. L'allemand se traduit par Lust, ce qui donne également le sens de la volupté qui est dans ce terme. Eh bien, ce premier livre, figurez-vous, est déjà une rupture avec le milieu qu'il décrit, et les portes qu'il a obtenues s'ouvrent devant lui, également par un mariage haut placé, se referment tout de suite.
Eh bien, puisque vous citez L'Enfant de Volupté, se met l'occasion, Maurizio Serra, de donner à entendre la voix de cet écrivain, D'Annunzio, dont nous parlons ce matin. Écoutez cet extrait que j'emprunte à l'émission Un livre des voix de Pierre Cipriot, sur France Culture, naturellement, le 16 décembre 1980. L'Enfant de Volupté, extrait.
En cette mémorable nuit de février, resplendissait une pleine lune fabuleuse, d'une clarté telle qu'on n'avait jamais vu l'appareil. L'air paraissait imprégné d'un lait immatériel. Dans l'immense resplendissement, tous les objets semblaient exister d'une existence de rêve, semblaient des formes impalpables, comme celles d'un météore, semblaient être visibles de loin par une fantastique irradiation de leurs contours. La neige recouvrait tous les barreaux des grilles, en cachait le fer, formait un ouvrage de broderie plus frêle et plus léger qu'un filigrane. Et les colosses vêtus de blanc le soutenaient, comme les chaînes soutiennent l'étoile des araignées. Le parterre fleurissait, semblable à une immobile forêt de lys énormes et difformes, tout de glace. C'était un jardin possédé par une incantation lunaire, un léthargique jardin de Séléné. Il attendait, penché pour voir, et sous la fascination de cette merveille, il sentait que les fantômes caressés de l'amour se réveillaient en lui, que les sommets lyriques de son sentiment recommençaient à scintiller comme les lances glacées des grilles sous la lune. Mais il ne savait pas encore laquelle des deux femmes il préférerait dans ce décor fantastique. Helena Hightfield, vêtue de pourpre, ou Maria Ferres, vêtue d'hermine. Et comme son esprit s'attardait complaisamment à l'incertitude de la préférence, il advenait que, dans l'anxiété de l'attente, se mêlaient et se confondaient étrangement deux anxiétés, la vraie pour Helena, l'imaginaire pour Maria.
Vous voyez sûrement, Maurizio Serra, pourquoi j'ai choisi ce passage. Il y a de la profusion, il y a du baroque, il y a du coruscant, et puis surgissent les femmes.
Oui. Alors, vous l'avez choisi dans la traduction quand même que D'Annunzio trouvait très embourgeoisé, très Troisième République de Georges Herrel, qui est son ami et en fait l'homme qui le découvre en France par des circonstances de hasard. Il se trouve à Naples et en vacances et il lit du D'Annunzio. Il décide immédiatement, par d'autres amis interposés, dont Paul Bourget et autres, de le faire paraître en France.
Il en voulait peut-être, mais néanmoins, il lui doit beaucoup.
Non, mais justement, je veux situer leur correspondance qui, maintenant, dans une édition savante qui vient de paraître en Italie, fait 600 pages, qui est une correspondance importante du genre auteur-traducteur, auteur toujours insatisfait de son traducteur et l'accablant de remarques, traducteur se défendant en disant « Je connais quand même le français mieux que vous, cher monsieur, et je sais comment faire passer ces choses. » Alors, c'est passionnant d'un rapport toujours dialectique entre un auteur et un traducteur. C'est pour ça que je tenais à le citer.
Et en même temps, c'est un rôle essentiel quant à la diffusion de l'œuvre et de la notoriété de D'Annunzio, qui est très prompte à Paris, qui va lui permettre ensuite d'y venir. Mais restons un instant en Italie, où il est.
Eh bien, à ce moment-là, il a une très courte carrière de député, entre 1897 et 1900.
Il passe de la droite à la gauche.
Et il passe de la droite à la gauche.
Le contraire est plus fréquent.
Oui, il faut dire que les camps, à ce moment-là, dans tout le pays, n'étaient pas aussi nets que les clivages qui apparaîtront quand nous associons ces termes à ce qui se passera au XXe siècle, enfin surtout après 14. Donc, ce n'est pas tellement cette désinvolture idéologique ou politique, si l'on veut, qui joue, c'est que la fin de son expérience parlementaire coïncide avec ce qui a été son antiparlementarisme dès le début. C'est-à-dire, il y trouve la confirmation, il dit même d'avoir voulu être parlementaire pour voir cela de près, que la démocratie parlementaire classique est périmée.
Et il a des écrits très sévères pour cet embourgeoisement de la politique, pour les grands personnages, les Nitti, les Giolitti, qui dominent la vie parlementaire.
Oui, et surtout l'idée du notable en politique, c'est-à-dire du politique, politicien permanent.
Il est notable aussi qu'un peu après, il tâte des affaires. Cet homme a connu des milieux différents. Il se fait même parfumeur. Les odeurs sont importantes décidément dans cette vie d'homme.
Alors, les odeurs, comme toutes les sensations, appartiennent vraiment à la panoplie du poète et de l'écrivain et même de l'homme. Il avait par exemple un goût extrêmement subtil pour les fleurs dont il remplissait toutes ses habitations à côté d'un bric-à-brac assez extraordinaire d'ailleurs.
Nous l'avons déjà vu dans l'extrait que j'ai donné.
Mais nous l'avons vu en effet. Mais à côté de cela, faut situer quand même ce sens des affaires. Ce sens des affaires était surtout la nécessité d'un endetté permanent. Alors comme il n'a toujours voulu vivre que de sa plume. C'est le cas, même à l'époque assez rare, d'un écrivain qui a eu quand même une vie longue et féconde, pour l'époque, 75 ans, et qui n'a jamais rien fait d'autre que l'écrivain.
On comprend qu'il ait négocié férocement ses contrats.
Et oui, dans la mesure où il pouvait le faire. Mais parfois, les dettes étaient telles qu'il a commencé à lancer des slogans lyriques bien timbrés en échange de la possibilité d'éponger certaines de ses dettes. Alors, l'expérience de parfumeur tenait justement à ce goût qu'il avait d'un odorat particulièrement subtil. Ça n'a pas marché et je pense que les flacons invendus, on doit encore en trouver quelque part au Vittoriale, mais ce n'est pas ça qui le définit. En revanche, l'inventeur de slogan est intéressant et j'en citerai seulement un qui est intéressant également pour le moment en pleine guerre mondiale où il le fait. Quand on lui demande de trouver le nom d'une chaîne de grands magasins genre Galerie Lafayette à Milan et en toute l'Italie, et le slogan qui a continué jusque dans les années 70 était la Rinascente, la Renaissante, ce qui à l'époque de la Grande Guerre, était intéressant. Les magasins ont connu leur fin dans les années 70, rachetés par le groupe Berlusconi.
Ce pourrait être aujourd'hui un collaborateur efficace de Publicis ?
Oui, enfin à ses heures, parce qu'il était quand même pas suffisamment méthodique.
Alors voyons comment s'organisent ces relations avec la France, car un des motifs qui le fait venir en France, c'est précisément la nécessité de partir, comment dire, un peu à la cloche de bois et de fuir ses dettes.
Oui, mais pourquoi en France qu'ailleurs? Eh bien, la raison est très simple, c'est que comme d'ailleurs les deux auteurs sur lesquels je me suis penché pour cette trilogie, donc d'abord Malaparte en 2011 et puis Italo Svevo en 2013, D'Annunzio également, enfin D'Annunzio les a précédés, c'est par la France qu'ils sont internationalement connus. Donc il y a un rapport très fort de l'auteur, un rapport professionnel avec la France. France où dès 1890 environ, il avait été déjà salué comme le représentant de la Renaissance latine. Et donc, il se dit que le moment est venu, à cause de ces mauvaises affaires italiennes, d'aller passer quelque temps en France, d'y écrire, pourquoi pas, quelques ouvrages, et notamment d'y monter quelques pièces, et puis de revenir en Italie. Il ne pense pas partir pour 5 ans, et ce sera 5 ans.
Il est notamment un des intermédiaires importants entre la vie culturelle et littéraire en Italie et en France dans ces années-là.
Mais il a une position qui est quand même essentiellement, à ce moment-là, axée sur le fait et sur l'ambition de devenir un auteur français. Et l'ouvrage qui en témoigne, c'est le texte qui, à lui seul, est de grande envergure pour Le Martyr de Saint-Sébastien, sa collaboration avec Claude Debussy.
J'ai pour vous, Maurizio Serra, une archive qui évoque cela. C'est un extrait d'une évocation radiophonique de Guy Tosi, qui était un de ses collaborateurs, qui est un des spécialistes de D'Annunzio. Cette émission s'intitulait « Comment est né le martyr de Saint-Sébastien ?» Elle a été diffusée le 11 avril 1948. Le montage est d'époque, vous allez voir, entre le son et la musique.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
25 novembre 1910. D'Annunzio s'adresse alors à Claude Debussy.
Mon cher maître, un jour lointain, sur la colline de Settignano, qui est le pays natal du plus mélodieux des sculpteurs toscans, Gabriel Mouret me parla de vous et de Tristan avec un accent profond. Je vous connaissais et je vous aimais déjà. Alors, comme aujourd'hui, je souffrais de ne pouvoir pas écrire la musique de mes tragédies. Cet été, tandis que je dessinais un mystère longuement médité, une amie avait l'habitude de me chanter les plus belles de vos chansons, avec la voix intérieure qu'il vous faut. Mon œuvre naissante en tremblait parfois, mais je n'osais pas vous espérer.
Mais nos chansons veulent se répandre, et tour à tour nos bouches s'unissent sur la pluie.
Aimez-vous ma poésie? Maintenant, je ne peux plus me taire. Je vous demande si vous voulez bien me voir et m'entendre parler de cette œuvre et de ce rêve.
Debussy est en Autriche quand il reçoit la lettre de D'Annunzio. Il y répond aussitôt.
Mon cher maître, votre lettre me rejoint à Vienne, où je suis pour quelque temps et pour mon ennui. Comment serait-il possible que je n'aime point votre poésie ? Aussi bien la pensée de travailler avec vous me donne à l'avance une sorte de fièvre.
Il y a un petit côté Asinus Asinum Fricat, comme on disait à Rome, entre le grand écrivain et le grand musicien.
Oui, je pense que les deux sont essentiellement attirés par, cela c'est souvent le cas, par le fait de faire une collaboration que le public n'attend pas nécessairement.
Et d'avoir un peu des rayons de la gloire de l'autre, sur laquelle on insiste pour assurer que l'on pourra s'entendre. Cette présence d'Annunzio en France n'est pas une vallée de roses. En particulier, il est parfois regardé d'un peu haut par exemple les milieux de la NRF. André Gide ou même Romain Rolland le considère avec quelques condescendance.
Tout à fait. Il est convaincu en arrivant qu'il va trouver l'accueil non seulement du public mais de la critique des années 1890. Donc les remis de Gourmont, les Paul Bourget vont avoir un rôle majeur dans son contact avec le public français.
Montesquieu aussi.
Oui, voilà, justement, ce n'est plus la même situation. Ceux qui se trouvent militer tout à fait de son côté comme Montesquieu, ne sont pas considérés par tout le monde, et notamment par ces jeunes écrivains de la NRF, comme étant les phares de la culture française à ce moment-là. Donc il y a un certain décalage, et c'est probablement une des raisons qui le pousse à quitter Paris pour les Landes. Ce décalage dans le climat culturel parisien, où il se sent mal à l'aise, et en même temps, vu qu'il continue avec plus de modération qu'en Italie, car il craint les services fiscaux français à accumuler des dettes, il va partir en province où les conditions sont meilleures.
Les services fiscaux sont plus efficaces en France qu'en Italie ?
En tout cas, à ce moment-là, c'était un souci de D'Annunzio.
Alors un mot sur Arcachon, ces années qu'il passe dans le sud-ouest de la France, la Villa Saint-Dominique, qui est toujours d'ailleurs visitée, qui est devenue une sorte de musée. Il y passe 5 ans, de 1910 à 1915. Il reçoit beaucoup de visites dans un décor profus. Ce sont des villas qui ont été conçues à l'époque du Second Empire par les frères Pereire, les Saint-Simoniens, une sorte de grand chalet suisse.
Oui, je pense. Et la raison est d'ailleurs très pratique, parce que Romaine Brooks, qui est un peintre américain, mais qui avait des attaches avec l'Italie et qu'il connaissait depuis les années romaines, a la possibilité de l'héberger, après quoi il devient autonome. Et ce sont des années qu'il partage, comme il a toujours partagé sa vie, entre la mondanité et le travail, mais les deux époques étant bien cloisonné dans sa vie. Quand il travaille, il devient le plus solitaire des hommes.
C'est une bonne discipline, probablement.
Je pense que c'est plutôt la peur qu'il a toujours eue de la dispersion.
Alors venons-en à ce moment essentiel, qui est celui de la guerre, puisque nous allons trouver un D'Annunzio patriote jusqu'à l'extrême, et en même temps très très soucieux de pousser son pays. L'Italie a hésité pendant plusieurs mois, du côté de l'entente, du côté des démocraties. Et pour cela, pour ouvrir ce moment de notre conversation, écoutez donc ce poème qui s'appelle « L'ode à la résurrection latine », qui a été publié tout au début de la Grande Guerre, le 13 août 1914, dans le Figaro. Il est lu par Henri Falcon le 26 juin 1965. C'est une émission qui était consacrée à la Grande Guerre par Pierre Cipriot.
Voici ton jour. Voici ton heure, Italie, et pour cette heure des années merveilleuses, la plénitude de tes allégresses, l'ai-je annoncé avec les bûchers, avec les hymnes, l'ai-je appelé dans la vigile et dans l'attente, l'ai-je hâté par la rancune et par l'amour. Je te montre le signe. Malheur à toi si tu doutes, malheur à toi si tu hésites, malheur à toi si tu n'oses jeter le dé.
Alors, Maurizio Serra, voilà une tonalité qui est propre à ce moment-là, qui est celle d'un homme qui regarde la guerre arriver avec quelque chose comme une attente, presque une volupté. Cette guerre que vous semblez redouter, dit-il, moi je l'appelle de toutes les forces de mon âme.
C'est ce qu'il dit à Maurice Paléologue, qui est l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, pratiquement à la veille, mais pas encore avant le coup de feu de Sarajevo. Alors, il y a deux aspects, me semble-t-il, qui doivent être pris en considération. D'une part, un aspect historique qu'on peut considérer lucide chez un poète, c'est-à-dire l'idée que ce ne sera pas une petite guerre, ce que d'aucuns pensent, mais ce sera vraiment un moment de changement d'une civilisation où le monde d'hier va périr.
Monde d'hier, expression de Stefan Zweig.
Oui, bien sûr. C'est parce que c'est tout d'abord l'Autriche-Hongrie qui, à ses yeux, l'empire des Habsbourg doit périr. Bien que, en France, où la température est évidemment surtout anti-allemande, il s'associe à cette mouvance.
C'est là que Barrès l'appelle le dur petit soldat.
Oui, ben, c'est le moment, justement, où il est déjà entré en guerre sans porter encore l'uniforme. Et il est incontestable, de ce point de vue, que c'est l'instrument le plus actif, je dirais même l'acteur intellectuel de l'intervention en guerre de l'Italie du côté de l'Entente qui aura lieu en mai 1915.
Cette attente de la guerre, rétrospectivement, cet espoir dans la guerre surprend, étonne notamment, et renvoie au fond au début des Mémoire de Gaulle, mémoire de guerre, et là cette formule fameuse, je dois dire que ma prime jeunesse imaginait sans horreur et magnifiait à l'avance cette aventure inconnue.
Eh bien voilà, c'est le deuxième aspect qui peut-être peut nous éloigner, en tout cas éloigne un certain nombre de lecteurs et le public aujourd'hui, c'est ce bellicisme décomplexé qui lui fait dire en 14 « j'adore la guerre ». Évidemment, c'est troublant. À côté de cela, vous trouverez pendant toute la période de la guerre, notamment dans ses carnets, parce qu'il fait peu de littérature, il n'a pas le temps, c'est un vrai combattant, mais dans ses carnets, vous trouverez des images en sens inverse, et cette phrase que j'ai voulu mettre en exergue, quand même, à côté de « j'adore la guerre », inutilité du carnage.
Contradiction ?
Non, je pense que les deux aspects, mais évidemment il y a une contradiction, mais les deux aspects sont d'un côté le côté guerre, si l'on veut, comme vaillant chevalier, et de l'autre côté la visible sensation de toute la monstruosité et les horreurs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
Il faut insister sur le fait que D'Annunzio, notre personnage de ce matin, Maurizio Serra, D'Annunzio joue un rôle important pour entraîner l'opinion publique italienne dans l'idée de l'entrée en guerre, aux côtés de l'entente. Et je voudrais vous donner à connaître un extrait de ses carnets qui remonte à avril 1915, au moment où il ambitionne d'entraîner l'Italie, d'être de ceux qui vont pousser l'Italie dans la guerre, et il reçoit, c'est symbolique évidemment, le petit-fils du grand Garibaldi qui vient lui rendre visite et avec lequel il prépare son intervention à venir dans les jours suivants.
Il y a certainement une providence apollinienne. Ce qui m'est offert est chose telle qu'elle résout tous les doutes et toutes les perplexités, qu'elle nous sauve de toutes les erreurs, de toutes les déviations, du péril des contretemps, des dissentiments, des mouvements intempestifs. La municipalité de Gênes me demande de parler au peuple d'Italie le 5 mai, à l'inauguration du monument, le jour anniversaire du merveilleux départ. Est-il plus grande occasion ? J'irai. Je conduirai avec moi la légion garibaldienne, le flot rouge. À 3 heures arrive Peppino Garibaldi. D'abord, je l'écoute. Son projet, selon le désir du gouvernement français, est de couper court aux atermoiements et de partir dans 20 jours pour l'Italie avec sa légion. C'est partir à l'aventure. Certes, la préparation en Italie est conduite avec ferveur, mais trop nombreuses sont encore les raisons qui peuvent s'opposer au succès. L'entreprise la plus généreuse et la plus audacieuse peut échouer pour un rien. Alors je lui expose mon projet, l'occasion providentielle, la merveilleuse coïncidence. La gorge me brûle, mais je ne crains pas l'enrouement. Moment d'émotion inoubliable. Peppino est assis près de moi, avec son grand front dénudé, ses joues creuses, ses 2 sillons autour de la bouche, il m'écoute. Ses yeux s'allument, brillent, lancent des éclairs. Il n'y tient plus, saute sur ses pieds. Il semble plus grand dans sa tunique bleue avec ses pantalons rouges de colonel français. Il marche avec agitation à travers la pièce, tandis que je ne cesse de lui représenter la beauté du prodige. Certes, il est dur d'attendre dans l'inquiétude 50 jours encore, mais l'occasion est providentielle. Elle nous donne la certitude absolue de la réussite. Il est impossible que l'Italie, fût-elle aveugle et sourde, ne voie pas le signe, n'entende pas l'appel, l'un et l'autre lancé du rocher de Quarto, tandis que 2000 jeunes hommes en armes, conduits par le petit-fils du héros, entourent le monument sacré pour partir de là, aller vaincre et mourir. Garibaldi comprend et ressent tout ce que je dis. Son visage devient tout à coup d'une beauté si virile que je ne puis résister au désir de lui prendre les mains et de les serrer, comme pour lui imposer un pacte. Et un serment. Oui, dit-il, ce doit être ainsi.
Quelque solennité, peut-être un peu de pompe dans cet extrait.
Alors, faisons la part de la réalité et celle de la fabulation, n'est-ce pas ?
Nous parlons d'un écrivain.
Oui, non, mais voilà, justement. Et je pense que le lecteur doit savoir que c'est matière toujours un peu à fabrication pour son œuvre et pour sa personne. En 14-15, il est certain que D'Annunzio n'est pas le seul qui se pose le problème de cette gênante, disons, neutralité italienne pour la cause des démocraties, et se forme en France, en grande partie d'ailleurs par des Italiens de France, une légion garibaldienne qui s'engage déjà volontairement, qui n'est donc pas une légion italienne, et qu'on connaît par ailleurs parce que un jeune collégien, fille de Prato, du même collège où avait étudié D'Annunzio, il s'appelle Kurt Suckert, il a 16 ans, et il deviendra Malaparte. Et il en a laissé un récit important.
Dont vous avez raconté l'histoire. Mais pourquoi Garibaldi était emblématiquement aussi important en 1914?
Eh bien, il l'est resté pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'anniversaire de Quart, donc c'est l'anniversaire du départ en 1861 de l'expédition des Mille qui vont conquérir le royaume des deux Siciles. Et puis, n'oubliez pas, que Garibaldi s'engage et conduit à Dijon pendant la guerre franco-prussienne également ses troupes. Donc il est évidemment très emblématique de la fraternité italo-française.
Et très présent dans les manuels français.
Et c'est la raison pour laquelle D'Annunzio voudrait annoncer à Quarto, donc à l'occasion de cette commémoration, que l'Italie va également entrer en guerre. Il y a à ce moment-là, ça devient un peu plus complexe que nous pouvons le résumer ici, quand même des contacts avec les autorités et le gouvernement, et son discours est plus modéré qu'on ne le pense, et donc il attend encore quelques jours avant que la déclaration officielle ne vienne le 26.
Et alors il continue à faire d'autres discours. Quarto, c'est près de Gênes.
Après quoi il redescend la botte jusqu'à Rome. Et il continue à relancer, je dois dire, d'une façon de plus en plus agressive, cette idée de la guerre. Mais je suis malgré tout assez convaincu, sur la base des documents que nous connaissons, qu'il agit en bonne intelligence avec le gouvernement pour préparer un peu l'opinion publique à celle qui sera la déclaration de guerre.
Et nous savons naturellement que du côté de l'ambassade de France au palais Farnèse à Rome, qui est occupé par le célèbre Camille Barrère, on est extrêmement attentif au rôle d'influence que...
Toutes les ambassades sont actives.
Que D'Annunzio... Oh, pardon.
C'est leur rôle.
Oui, je ne voulais pas limiter, monsieur ambassadeur, à la France le seul privilège de la lucidité.
Non, en revanche, ce qui est certain, c'est que du côté, disons, de l'adversaire, celui qui devient l'adversaire, l'Autriche-Hongrie, il y a une grande maladresse de l'ambassadeur à Rome, qui d'ailleurs est un loyal citoyen de l'Empire d'origine italienne, ce qui était déjà une mauvaise idée de l'envoyer à Rome, le baron Macchio, qui est un intransigeant contre toute négociation, et voilà le résultat.
Alors parlez-nous de la guerre d'Annunzio, qui est brillante, comme on disait à l'époque, et qui d'autre part attire davantage l'attention depuis la France sur son itinéraire, sur son histoire, sur son destin.
Écoutez, c'est une guerre qui a autorisé des clichés, voire des caricatures, qui, du point de vue d'un historien et d'un biographe, aussi modeste qu'il soit, que je sois, n'ont vraiment aucun relief, ni aucune autorisation. Parce que c'est certainement une guerre comme seul D'Annunzio pouvait faire, c'est-à-dire une guerre où il n'y a pas une discipline de présence de tous les jours et de toutes les heures au front. C'est plutôt une guerre d'action flamboyante. Mais elle dure et se multiplie sans cesse pendant 3 ans et demi, et je ne parle pas encore de Fiume, sur terre, sur les mers et dans le ciel. Donc je pense que c'est quand même assez spectaculaire. Et unique si on pense que c'est déjà un quinquagénaire qui aurait pu se limiter à ses grands appels patriotiques, quinquagénaire de l'époque.
Et c'est le moment où il retrouve sa passion pour la vitesse. Naguère, c'était en automobile et maintenant, c'est l'avion. Il prend des risques?
Il prend des risques innombrables et divers. Il n'a jamais été pilote de guerre, comme d'ailleurs Malraux, mais il a été observateur et chef d'escadrille, et il a eu certainement un rôle assez important de ce point de vue-là, également pour le développement, ce que moi-même je ne croyais pas, mais je me suis rendu aux spécialistes, aux vrais spécialistes techniques, pour le développement de certains prototypes d'avions.
Bon, bien noté. Alors maintenant, il faut en venir à cet épisode qui l'inscrit plus que tout autre dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire de l'Italie, dans l'histoire internationale. Je veux dire, ces 500 jours de Fiume. Il faut que vous nous racontiez ça. C'est un épisode souvent oublié, mais qui est plein de passion et peut-être de signification et de portée jusqu'aujourd'hui.
Nous sommes presque arrivés au centenaire de Fiume dans quelques mois, en septembre 19.
Commémorer, nous avons appris ici à distinguer.
C'est une belle...
Célébration et commémoration.
C'est une belle expression suffisamment neutre pour couvrir l'ensemble de jugements que nous pourrons avoir sur une page qui divise encore énormément les historiens, les spécialistes, sans parler d'un public plus large, souvent intoxiqué, me semble-t-il, par des préjugés idéologiques. Alors disons tout simplement...
Racontez-nous.
Voilà, disons en extrême simplicité que c'est un des... micro-conflit ou micro-crise posthume que les traités de Paris n'arrivent pas à endiguer, du moins au début. Il y en a d'autres, bien sûr, mais il est particulièrement retentissant. Il y avait un vide en ce qui concerne le sort que le traité conçu et signé entre les Alliés et l'Italie en 1915, connu comme le pacte de Londres, et dont notamment l'ambassadeur français à Londres, Paul Cambon, fut le grand metteur en scène, régisseur.
Et qui faisait des promesses à l'Italie.
Oui, mais pas sur le sort de Fiume. Il y avait un vide à ce sujet. Fiume n'était pas contemplé. Le problème du pacte de Londres, c'est qu'il était incompatible avec les promesses, je simplifie, que les Alliés, et notamment la Russie, mais après la Russie, nous aurons justement le vide qui se pose là, donc quel est le successeur de la Russie à Paris, il n'y en a aucun, avaient fait à un futur royaume des Yougoslaves.
Alors Fiume, c'est en Dalmatie, à l'époque, c'est aujourd'hui la Croatie, la ville s'appelle Rijeka. Il va être d'ailleurs, c'est intéressant, en 2020...
Capitale européenne de la culture. Et ce sera une autre occasion de se pencher sur cet épisode.
On verra si d'ailleurs il est évoqué à ce moment-là, ce sera curieux.
Et nous verrons s'il est évoqué. Mais le fait est que D'Annunzio décide donc que le moment est venu de mettre un terme aux tergiversations des négociations de la paix qui n'aboutissent pas à une solution de la question. Je suis personnellement convaincu, comme d'autres qui font plus autorité que moi, que il ne pense pas à une occupation, si le terme d'occupation est juste d'ailleurs, prolongée. Il pense que cet acte
est symbolique.
Est symbolique, et après cela, la situation va revenir. Et il se trouve, comme nous disons en italien, avec l'allumette qui lui brûle les doigts, parce que finalement, il est là et il ne sait pas comment vraiment s'en sortir et s'enferre de plus en plus dans une position qui, en même temps, séduit la part en lui qui a voulu toujours être un condottiere. Donc, il y a les deux éléments.
Commandant, il gouverne la ville. Et d'ailleurs, il y a une constitution intéressante et assez moderne qui prévoit les retraites des vieux, le soutien à l'égalité des sexes, allocation de chômage, salaire minimum.
Ah oui,
pas
non,
si mal.
C'est une constitution qui est d'ailleurs dans la partie finale des 500 jours, qui a des aspects libertaires très poussés. C'est même une constitution du bonheur, elle le dit dans le début, pour les individus et pour les sociétés. À côté de cela, contradiction typique de toute l'équipée de Fiume, il y a quand même des aspects fortement autoritaires, nous dirions d'état éthique. Et ça va exactement dans la direction inverse.
On peut peut-être envoyer un beau roman d'Alessandro Barbero qui s'appelle Poète à la barre, Poeta al comando, qui évoque de façon tout à fait suggestive cet extraordinaire épisode.
Oui, sans doute.
Quelle est l'ambiance de Fiume dans ces journées-là?
Il y a plusieurs facteurs qui interviennent, parce que Fiume est certainement typique de toute la situation de l'Istrie et de la Dalmatie de cette région, c'est-à-dire toutes les villes sont à très forte majorité italienne, toutes les campagnes sont à très forte majorité slave. Donc il y a d'abord ce discours, ce clivage qui est très fort, qui devient un clivage social, parce que les villes, c'est la bourgeoisie, et les campagnes, c'est plutôt le prolétariat. D'ailleurs, le prolétariat qui vient travailler souvent en ville. Le cas de Svevo est encore typique à Trieste.
Italo Svevo,
oui,
l'écrivain.
J'en avais parlé pour Trieste. Mais à Fiume, c'est encore, si l'on veut, plus acéré. Et les deux camps sont totalement, non pas nécessairement hostiles l'un à l'autre, mais ethniquement incompatibles. Il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Ils s'ignorent. Donc, il est certain que l'idéologie de l'équipé a augmenté, cela ne fait aucun doute, les différences entre les deux camps. Mais le paradoxe est qu'à la fin, le règlement de compte du Noël de sang n'est pas un règlement de compte entre Italiens et Slaves, ce qu'on aurait pu penser, ce qui aura lieu au moment du nettoyage ethnique du maréchal Tito 30 ans plus tard, qui pratiquement élimine la communauté italienne, mais c'est une confrontation armée entre Italiens, c'est-à-dire entre les Fiumains, donc les forces de Fiume, et le gouvernement italien qui doit absolument, sur la pression alliée, mettre fin à cette sécession qui devient trop embarrassante sur le plan diplomatique.
C'est ça le Noël de sang.
Oui, et D'Annunzio aurait certainement pu l'éviter. C'est une des imputations majeures qu'on peut lui faire.
Cet épisode retentissant et légendaire, considéré de façon soit négative, soit positive, par l'opinion européenne en particulier, va compter dans la suite de l'histoire, c'est-à-dire notamment les relations entre D'Annunzio et Mussolini, avec les débuts du fascisme, des relations qui sont extrêmement ambivalentes et qui vont mettre Mussolini dans une position qui est faite d'un mélange d'infériorité d'abord, puis de supériorité, de méfiance, d'inquiétude. Il dira, lorsque vous avez une dent pourrie, c'était notre homme, c'était pas très aimable, vous pouvez soit l'arracher, soit la couvrir d'or. Qu'en fut-il ?
Eh bien, disons qu'en 1920, Mussolini parasite sur D'Annunzio, en ce sens que c'est de loin le moins connu des deux personnages. Il a une attitude très ambiguë envers Fiume, mais finalement, il a toujours un pied dans la réalité politique et sent que le moment de l'affrontement n'est pas venu. Donc, de ce point de vue-là, on peut très théoriquement considérer que le coup de Fiume, l'équipé de Fiume est une préparation ou un signe avant-coureur de la marche sur Rome. Je pense que Mussolini a surtout vu pour la marche sur Rome, ce qu'à Fiume n'avait pas marché.
La marche sur Rome, il faut rappeler qu'en 1922, c'est l'arrivée des fascistes dans la capitale qui va commencer d'installer Mussolini au pouvoir.
Oui, mais cette marche sur Rome qui donc a lieu le 28 octobre 22 est également anticipée, il faut le savoir, pour éviter que le 4 novembre suivant, date de l'anniversaire de la fin de la guerre pour l'Italie, il y ait un grand rassemblement de tous les partis où l'orateur principal aurait dû être, figurez-vous, D'Annunzio.
Il l'a su, il en a souffert ?
Il en a certainement souffert. Je pense qu'il se rend compte à partir, j'ai parlé du réalisme de l'homme, je pense qu'il se rend compte à partir de cela qu'il est maintenant sinon le dindon de la farce, mais en tout cas celui qui a perdu la compétition politique. Et donc, il se met un peu en retrait, d'où l'ambiguïté, si l'on veut, de son attitude envers le régime, mais qui n'est jamais fait d'une adhésion idéologique. Je persiste et signe, D'Annunzio n'a jamais été fasciste.
Et c'est là qu'on le voit se réfugier ou s'installer dans cette villa qui aujourd'hui est devenue aussi un musée, qui est visitée par beaucoup de touristes. Cette villa qui s'appelle Vittoriale degli Italiani et qui est le plus fréquemment dénommée Vittoriale. C'est un lieu très très typique à la fois par son ameublement, par ce qu'il dit de la façon de vivre de D'Annunzio, dont la santé d'ailleurs progressivement se dégrade.
Alors, je pense que le grand avantage que peut-être inconsciemment, au fond, il poursuivait de la fin de cette phase guerre politique qui finalement dure de 1914, si l'on veut, à 1920, 21, 22, et qui est très nourrie, c'est de revenir à l'écriture. Après tout, c'est un écrivain, donc, et il a besoin de repli, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon presque obsessionnelle pour pouvoir écrire.
Il inscrit à l'entrée de sa villa, j'ai ce que j'ai donné.
Oui, c'est une des devises d'ailleurs qu'il a toujours adoptée et qui est vraie. D'ailleurs, elle concerne également le sort de cette villa qui est en fait une succession de villas à l'intérieur d'un parc, grande et petite. Ce n'est pas particulièrement luxueux. parce que il en fera le don justement à la nation. Donc il fera le don non seulement de la propriété, mais des droits de toutes ses œuvres.
Après que Mussolini a veillé à ce qu'il puisse matériellement
évidemment,
demeurer
vous avez très bien fouiné dans la reconstruction, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est un marché, si l'on veut, mais il l'aurait fait de toute façon, je pense, parce que il voulait assurer l'unité et la survie de cette œuvre de Pierre, qui est une autre partie de son œuvre écrite.
C'est le temps où son image en France, puisque nous le considérons, D'Annunzio, notamment sous la lumière des relations entre l'Italie et la France, qui est d'actualité, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, c'est le temps où sa étoile pâlit quelque peu, mais néanmoins, il continue d'être très attaché à son image en France. Et je voudrais vous faire entendre, pour finir, un poème, certes antérieur à la guerre, mais qui ramasse assez bien l'idée qu'il souhaite que l'on se fasse de la France croisée. C'est un poème qui avait été publié dans Le Figaro en 1915 et qui est lu ici, le 26 juin 1965, sur France Culture, par Henri Falcon.
France, France la douce, entre les héroïnes bénies, amour du monde, ardente sous la croix, comme au mur d'Antioche, alors que Godefroy sentait sous son camail la couronne d'épines. Debout avec ton Dieu comme au pont de Bouvines, dans ta gloire à genoux comme au champ de Rocroix, neuve immortellement comme l'herbe qui croît au bord de tes tombeaux, au creux de tes ruines, fraîche comme le jet de ton blanc peuplier, que demain tu sauras en guirlande pliée pour les chants non chantés de ta jeune Pléiade, ressuscité en Christ, qui fait de ton linceul gonfanon de lumière et cotte de croisade. France, France, sans toi le monde serait seul.
Il y a une lacération très profonde dans cette dégradation qui se fait dans les années 20 et 30 des rapports, à tel point, que je citerai deux exemples. Il sait que l'opinion italienne, l'opinion publique reste très proche de la France. Et en 1926, dans une de ses rares apparitions, parce qu'il quitte très peu le Vittoriale, pour des raisons d'image, mais pour des raisons de substance. Il ne veut plus se montrer. Il s'est trop montré, c'est une autre forme, si l'on veut, de son égocentrisme. Il veut qu'on se souvienne de lui, mais qu'on ne le voit pas. Eh bien, il fait une apparition à la Scala de Milan pour une reprise du Martyr de Saint-Sébastien. Il est en uniforme de général de l'armée de l'air et il est ovationné. Il adresse d'ailleurs un hommage poétique à Debussy, qui, comme nous le savons, est mort en 18. Et c'est encore un moment très vibrant de l'amitié franco-italienne. Et puis, 10 ans plus tard, il est très ulcéré que Mussolini ne lui permette pas de faire une rentrée diplomatique, comme disons, chargée de mission, auprès du gouvernement français au moment des grandes difficultés qui se font sur la crise d'Abyssinie. Et il est encore plus ulcéré quand il arrive quand même à envoyer une lettre au président Lebrun qui reste sans réponse.
Et dans le même temps, d'ailleurs, la germanophobie de D'Annunzio ne désarme pas.
Non, c'est un des premiers qui lance un appel très net, une mise en garde très nette qu'il répliquera jusque, paraît-il, les témoignages sont un peu divergents, lors de leur dernière rencontre quelques mois seulement avant sa mort, une mise en garde très nette à Mussolini et à l'Europe sur le phénomène hitlérien. Je suis encore à la recherche, d'ailleurs, comme d'autres, du déclic véritable qui lui a donné, alors que beaucoup d'intellectuels européens n'étaient pas aussi lucides sur ce qu'était le nouveau chancelier allemand, pas encore Führer, qui lui a fait comprendre si bien le fond du personnage.
Dès 1933, dès l'année de l'accession de Hitler au pouvoir en Allemagne, notre D'Annunzio en fait ce portrait charge, qui est vraiment digne des caricatures les plus sévères de l'époque, ce manant, Hitler, avec son ignoble face barbouillée d'un lait de chaux indélébile et de la colle où il trempait son pinceau, sa longue brosse à bout de perche, devenue aujourd'hui le sceptre de ce paillasse féroce qui se prolonge en touffe sous ses naseaux nazis. C'est bien le style toujours de D'Annunzio, disons que c'est un style profus. Il n'a pas eu le temps, il est mort quelques mois avant, d'assister à la venue triomphale de Hitler à Rome, accueilli par Mussolini à la fin de 1938.
Alors, il est très peu probable, quoi qu'on l'ait écrit, que Hitler ait essayé de le faire empoisonner. Il y a des témoignages à ce sujet, tout simplement parce qu'à un certain moment, il avait une femme de ménage qui était tyrolienne et tout ça. Non. Mais il est certain, en revanche...
Voilà une fake news qui est pourfendue.
Eh oui. Mais il est certain, en tout cas, que le personnage est resté, même après sa mort, si impopulaire. Et en 1940-41, les Allemands affirment qu'il était anti-hitlérien parce qu'il était d'origine juive.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Du côté toujours de l'Infox, votre livre majeur sur lequel nous avons fondé cette émission, cette conversation, s'intitule D'Annunzio, le Magnifique. Il vient de paraître chez Grasset en 2018. Et il a été couronné, j'ai plaisir à le dire, par le prix Chateaubriand. Tout récemment, c'est un prix qui est attribué à la Vallée aux Loups.
Tout à fait. Et donc, je suis très honoré et très ému d'avoir reçu cette distinction.
Est-ce que Chateaubriand peut apparaître comme une sorte de personnage tutélaire pour ce D'Annunzio que nous avons évoqué?
Je n'y avais pas réfléchi, mais effectivement, il y a des aspects qui peuvent et comment les rapprocher, c'est très juste.
Lesquels?
Eh bien, certainement, le goût de la personnalité, et en même temps, l'œuvre et la mise en scène de l'œuvre et de la vie.
Vous avez d'autre part publié deux autres biographies qui constituent, avec D'Annunzio, une trilogie, paru également chez Grasset en 2011 et 2013, Malaparte, Vise et légende, et puis Italo Svevo ou L'Antivie. Le tout, je crois, à la suggestion de Jean-Paul Lanthoven.
Oui, je pense que le choix de ces trois personnages est très foncièrement lié au fait que la France a joué un rôle majeur dans leur vie, dans la diffusion et surtout dans le cas de Svevo, mais dans les deux autres également, dans la découverte de leur œuvre. L'Europe et le monde ont connu ces trois auteurs par la France.
Nous ne serons pas surpris, monsieur l'ambassadeur, que ce soit dans le domaine de la diplomatie culturelle en particulier, hier et encore aujourd'hui, que vous déployez vos talents.
Oui, effectivement, nous verrons si, malgré tout, des îlots de résistance dans le monde où nous sommes qui peuvent promouvoir l'entente par la diplomatie culturelle ont encore un sens. Personnellement, je crois que oui, et donc c'est avec passion que je m'attelle modestement à cette tâche.
Eh bien, merci. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète avec d'autres biographies de notre D'Annunzio sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la désobéissance militaire. Depuis quelque temps, on a évoqué des tensions entre le haut état-major de l'armée française et la présidence de la République, mais bien au-delà, c'est un sujet qui me paraît digne d'intérêt, qui pose beaucoup de questions. Hervé Drévillon, vous le savez, est un excellent connaisseur de notre histoire militaire. Ce sera donc mon invité. Lundi matin, vous retrouverez à partir de 9h la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au thème de l'éducation. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée comme chaque semaine par Yaël Mandelbaum, avec la prise de son notre cher Emmanuel Morse Duncan, avec la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delaveau. Et maintenant, je passe le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.